Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans Par les temps qui courent. C'est chaque soir une heure d'entretien avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, l'auteur Vincent Borel.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il bien.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
C'est l'acte même d'écrire qui m'a aidée à tenir une distance salutaire avec les épreuves. Je m'étais vouée à une solitude volontaire afin de digérer ma terreur. Je m'observais comme un chercheur scrute son cobaye. J'ai combattu par l'imaginaire et l'abus de métaphores les cauchemars fondamentaux liés à la peur de mourir. Ce combat de soi, avec un soi-même devenu ennemi mortel, s'est effectué sur un théâtre intérieur. Les images stupéfient aussi sûrement que les drogues. Les métaphores sont une chimiothérapie intellectuelle redoutablement efficiente pour affronter une réalité insoutenable au long cours. C'est un extrait de la préface que vous signez pour la parution en poche de votre livre « Vie et mort d'un crabe » Vincent Borel. Je la cite parce qu'elle est très belle, mais aussi parce que les résonances sont nombreuses avec votre dernier roman qui paraît aussi chez Sabine Vespizard éditeur, mais cette fois pas en poche. Dans celui-ci, ce n'est plus votre corps biologique qui tient lieu de matière première à l'écriture, ou plus seulement, mais le corps du compositeur Anton Bruckner qui n'aura épousé que le corps de l'orgue et le souffle de Dieu avec la musique. Bonsoir à vous, Vincent Borel.
Bonsoir Marie.
Et bienvenue. Ce roman s'appelle La vigne écarlate et il tient dans son petit début en exergue la situation suivante. L'admiration des gens soi-disant incultes est tout à fait naturelle. En revanche, l'admiration des gens soi-disant cultivés est une perversité positivement perverse. C'est une citation des Maîtres anciens de Thomas Bernhard. Est-ce que c'est une manière de nous prévenir que ce livre ne sera pas un exercice d'admiration pour Bruckner ?
Absolument. Parce que bizarrement, c'est un compositeur pour lequel j'ai assez peu d'atomes crochus, alors que j'avais beaucoup d'atomes crochus, par exemple, pour Lully ou pour Wagner.
Qui ont donné lieu tous les deux à deux précédents
livres.
Qui,
effectivement, ont donné lieu à deux romans, déjà. Mais Bruckner, en fait, c'est une énigme. Je pense que c'est une énigme humaine. Aussi, pour les musicologues, toujours, parce que c'est un homme sans histoire. Enfin, c'est un homme sans grande histoire d'amour. C'est un homme assez peu romanesque, mais qui laisse une œuvre musicale fondamentale, puisqu'il fait bizarrement le lien entre Schubert et Mahler. Donc, c'est un gros trait d'union, voilà, un trait d'union important. Et puis, c'est un homme qui aura toute sa vie couru après l'admiration, après le succès, et qui ne le rencontre que très peu. Il en souffre énormément, donc on sent que c'est quelqu'un qui est un peu comme la phrase de Thomas Bernhard, on sait pas comment la prendre en fait. Il faut admirer, faut pas admirer. Si on admire, on est intelligent, ou si on n'admire pas, on est stupide. On sait pas où on est.
Où est la perversion dans l'admiration ?
Et voilà, donc Bruckner, c'est une belle question sur la création.
Bruckner adresse une belle question sur la création.
Oui, une belle question. Je pense ce qui est assez fascinant avec lui, c'est la façon dont sa libido, ou plutôt sa non-libido, a travaillé sa création. C'est quelqu'un qui a la réputation d'avoir été le puceau de Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré l'acte, a priori, qui n'a jamais connu l'acte charnel, qui s'en est toujours empêché. Et qui a écrit la musique la plus passionnelle qui soit. C'est une adresse sensuelle, c'est une adresse amoureuse au monde, à son créateur, parce que c'est un homme fondamentalement extrêmement croyant. Et c'est quelqu'un qui a toujours couru après une histoire d'amour qu'il n'aura jamais accomplie. Donc il est à nouveau dans cette faille. C'est un chiasme, cet homme. C'est quelque chose qui, et de cette douleur et de cette contradiction naît une œuvre pharaonique, une œuvre énorme, sans cesse remise sur le métier, et qui aura été son l'alpha et l'oméga de son existence. Une espèce de moine de la musique, traversé de passions, qui sont des passions qu'il garde sous le boisseau, comme ça, qui retient, parce que la chair c'est pas bien, parce que le sexe c'est pas bien, mais ce moteur-là le fait fonctionner. Et c'est ça qui est fascinant. C'est comment, enfin, ce qui m'a fasciné dans ce personnage, c'est comment est-ce qu'on a pu bâtir une carrière sur l'empêchement de soi-même et l'empêchement du désir. Qui est tellement fondamental dans la création. La libido est quand même un des moteurs fondamentaux de la création. Et lui, finalement, il a avancé sans démarrer son moteur.
On reviendra sur cette notion d'empêchement parce qu'elle est vraiment au cœur du livre et elle a plusieurs variations pour reprendre une métaphore musicale. Mais peut-être pour rester encore un instant sur cette citation de Bernard, l'admiration, c'est aussi quelque chose à laquelle, si on voulait bien, Vincent Borel, il s'est adonné, Bruckner, par exemple, à l'égard de Richard Wagner. C'est vraiment, ce sont des scènes extrêmement émouvantes, la manière dont il s'en remet complètement à Wagner et à l'admiration qu'il a pour l'homme et la musique. Est-ce que vous parliez de trait d'union tout à l'heure? Est-ce que c'est aussi le trait d'union avec un de vos précédents livres consacrés à partir de la figure de Wagner, cette admiration-là? Ou c'est un hasard?
C'est un hasard. La citation de Thomas Bernhard et la lecture de cet auteur autrichien m'emplit toujours d'une joie féroce, parce que c'est un tel destructeur des mythes et un tel destructeur de la pensée commune, que c'est un vrai régal. Et puis chaque fois il pose comme ça des énigmes qu'on ne cesse de résoudre. C'est comme cette citation, c'est une équation, on ne sait pas comment la prendre. C'est pour ça qu'elle est fascinante.
Elle contient son inverse toujours.
Oui, voilà. C'est comme une boucle de Moebius, hein. On sait pas exactement comment la regarder. Mais l'exercice d'admiration, j'y ai pas vraiment réfléchi. J'ai pas vraiment réfléchi. C'est pas un acte volontaire, en tout cas.
Le lien avec Wagner.
Je vous disais tout à l'heure que la musique de Bruckner me parlait moins que celle de Wagner, mais il y a certains moments dans la musique de Bruckner où tout d'un coup on s'arrête, on dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est absolument magnifique. C'est une chose qui est bouleversante. Et quand j'écrivais mon roman sur Wagner, Richard W, je m'étais fait une playlist comme ça d'œuvres que j'aimais écouter, les derniers quatuors de Beethoven, par exemple. Et puis, il y a dans la deuxième symphonie de Bruckner, il y a un mouvement lent qui est d'une beauté, mais qui est une espèce de mélodie infiniment triste et mélancolique qui prend, quoi. Et ça fait partie de ces morceaux de musique qui sont, je fonctionne un peu comme ça. C'est partie de ces morceaux de musique qui vous hantent tellement, qui provoquent une écriture. La Passacaille d'Armide chez Lully a provoqué l'écriture de Baptiste. Le prélude de Tristan a provoqué l'écriture de Tristan.
De
Richard W. Mille regrets de Josquin des Prés a provoqué un roman sur la polyphonie du XVIe siècle qui s'appelle aussi Mille regrets. Donc, il suffit de 5-6 minutes de musique pour que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui m'appelle.
Et quand vous dites provoquer une écriture, c'est aussi, par exemple, provoquer une langue qui serait pas la même, tout en restant la vôtre, de Richard W, en passant par Baptiste et en arrivant ici avec La Vigne écarlate.
Ça a provoqué des langues, jadis. La langue de Richard W, la langue de Baptiste et la langue de Bruckner. Curieusement, je n'ai absolument pas calculé. C'est bizarre, je n'ai pas calculé ce livre, comme disent les jeunes, je calcule.
Vous ne l'avez pas vu venir, quoi.
Je ne l'ai pas vu venir. Pour parler un peu de la cuisine de l'auteur, j'ai acheté un carnet de Moleskine, j'ai laissé tomber l'ordinateur, et j'ai pris le stylo et je me suis lancé.
Marrant.
Je me suis lancé et ça venait comme ça. J'avais pas de contraintes, j'avais pas d'hésitation non plus. Et le premier jet était le bon. Voilà, ça. Je voyais le personnage. Ça venait comme ça. Il n'y avait pas de recherche spécialement de langue. C'était. J'ai tout de suite trouvé mes chaussures pour marcher avec lui.
Voici quelqu'un qui invente une autre manière. Ça ne vient encore une fois de nulle part. Mais dès que vous l'entendez, même si vous n'êtes pas brucknerien spécialiste, vous allez dire ça, c'est du Bruckner. C'est lui, et c'est tellement lui, que ça peut devenir vous aussi. C'est difficile de comprendre ça. Comment il se détache? Comment il arrive à ce que les phénoménologues appellent die intersubjektive Betreffbarkeit? Après avoir déposé tout ce qui est vôtre, et irrémédiablement vôtre, vous vous élevez et vous trouvez l'autre en vous. Nous tous allons dire, ben, c'est ça, c'est du Bruckner, parce qu'il s'agit de nous-mêmes aussi. Mais c'est tellement bien structuré, il visite tous les compartiments de l'orchestre pour contagier, pour prendre avec soi tout le monde. Et très souvent, on n'a pas compris la différence énorme entre la partie A et la deuxième partie A et cette partie centrale B. C'est vrai, il a tâtonné lui-même, il l'a changé plusieurs fois. Il se trouvait dans la position de celui qui écoute et qui ne réalise pas complètement l'interdépendance du texte. Bruckner, c'est un miracle. Miracle de vitalité spirituelle. Et laquelle n'était pas du tout appuyée par un intellect. C'était un homme d'une simplicité et d'une culture très, très petite. Et pourtant, il est arrivé, entre tous les symphonies, vous savez, il est arrivé le plus loin possible. Ce qu'il a arraché au cosmos, ce qu'il a libéré de l'emprise du temps et de l'espace, ça c'est vraiment le produit, non d'un intellect, mais un miracle.
Bon, vous parliez tout à l'heure de passion et d'écriture passionnelle. Vincent Borel, ici, Sergio Celibidache en parle vraiment avec passion d'Anton Bruckner. C'est une archive de 1999 diffusée sur France Musique. Il y a plein de choses dans cette courte archive. Si on essaie de remonter un peu la parole de Celibidache, dans un premier temps, ce qu'il dit du dépôt de soi, du dépôt de tout ce qui est vôtre, pour se laisser contagier, dit-il dans un français inventé et très beau, contagier, à la fois prendre tout l'orchestre, mais aussi prendre tout ce qui est autre et le faire entrer en soi. Je trouve que ça résonne beaucoup avec le roman que vous avez écrit, Vincent Borel, mais peut-être de manière plus générale, avec votre manière d'écrire tous les livres, quoi.
Peut-être, je sais pas, moi c'est vrai que je me laisse envahir par... Dans ces moments d'écriture, moi je me sens un peu comme une membrane. Voilà, je recueille les choses et je restitue les choses. Je sais pas exactement ce qui se passe, comme je sais pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai pas envie de le savoir. Je pense qu'il faut pas gratter de ce côté-là parce que sinon la magie disparaît et on n'a plus la fraîcheur. Mais oui, on est le réceptacle de quelque chose et il faut aller à l'instinct, je dirais. Voilà. Je pense que Bruckner c'est assez curieux parce que d'abord c'est quelqu'un qui est très peu sûr de lui. C'est quelqu'un qui réécrit énormément, même quand il est un compositeur confirmé, qu'il a quand même des élèves ou des admirateurs ou des étudiants libres comme Hugo Wolf et Gustav Mahler autour de lui. Il est capable de rester coincé pendant des mois parce que quelqu'un lui a dit « Ah, mais tu vois, à la mesure 103, quand même, maître, j'aurais pas fait ça, vous savez, les contrebasses, ça serait mieux quand même de cette façon-là, etc. » Donc lui, il est tétanisé, il va réécrire, mais il y a quelque chose au fond de lui qui le pousse. Et alors, c'est ce que dit Celibidache est intéressant aussi parce que Bruckner, c'est quelqu'un qui est obsédé par le conservatoire, qui est obsédé par la technique. Il a peur de mal écrire. Ça devient totalement obsessionnel d'ailleurs parce qu'il voilà, il fait des heures et des heures de contrepoint. Il est pas sûr de lui. C'est un professeur qui est sans arrêt à la recherche d'un professeur. Et qui répète indéfiniment les mêmes formules pour trouver la bonne formule. Et en fait, c'est dans cette répétition que se trouve son génie. Quand on écoute une symphonie de Bruckner, c'est très déroutant parce que on a l'impression d'entendre parfois une espèce de Philip Glass ou de Steve Reich avant l'heure. C'est-à-dire que c'est une musique très répétitive, mais qui se déploie dans sa répétitivité même. Donc je pense aussi que c'est de l'ordre c'est peut-être un peu de l'ordre de l'onanisme. On peut prononcer ce mot-là pour quelqu'un qui n'a.
Mais vous l'avez même écrit.
Je l'ai écrit. Moi, je pense que c'est l'écriture de Bruckner musicale qui est complètement, complètement obsessionnelle. De toute façon, c'est un obsessif aussi. Hein. Ce sera un obsessif de du comptage des choses. Il aurait compté, il comptait les perles sur un collier. Il comptait les feuilles des arbres, les fenêtres d'un immeuble. Il y a une, il y a une obsession du bien faire qui a contaminé son, son moi profond.
Comment est-ce que vous entendez le, ce que dit Céline Bidach de, il peut être nous, il nous demande tellement de déposer ce qui est nôtre pour se laisser comme ça, oui, contaminé par sa musique, il peut être nous. C'est étrange comme formulation.
Oui, c'est étrange. J'avoue avoir un peu de mal à la saisir d'ailleurs, parce que. Je dirais pas ça de Bruckner, en fait. Il n'est pas nous. C'est quelqu'un qui est loin. C'est une musique dans laquelle on ne rentre pas très facilement. Il y a des symphonies qui sont, voilà. Bon, la septième, je pense qu'on va l'entendre d'ailleurs.
Mais
je pense que la septième, bon, qui a été si brillamment illustrée par Visconti dans Senzo, est une musique qui parle immédiatement. Mais, la neuvième, la huitième, même les premières symphonies sont des symphonies qui sont d'un accès difficile. Il n'y a pas la passion wagnérienne, où il n'y a pas la joie, le dynamisme, le côté prométhéen de Beethoven, que Bruckner par ailleurs admirait énormément. Donc c'est une musique de l'intellect, c'est une musique qui est loin, et bizarrement, à certains moments, on va rentrer dedans. Cela dit, ça dépend aussi. Alors Bruckner, pour cela, est un compositeur compliqué, ça dépend du chef d'orchestre. Tout le monde ne réussit pas Bruckner, et quand on regarde la discographie brucknerienne, il n'y a quasiment pas d'intégrale réussie. C'est-à-dire que sur les 9 ou sur les 11, ça dépend le choix qu'on fait, en termes d'édition, les chefs vont réussir 3, 4, et puis ils vont passer totalement à côté de les symphonies les plus difficiles, qui sont la 6e, par exemple, qu'on a un peu du mal à identifier, parce que on est entre l'essai et l'inabouti, etc. Et c'est quelqu'un qui est, on a l'impression qu'il, pour reprendre justement l'action que posait Céline Bidach, c'est quelqu'un qui est, à certains moments il est nous, et après tout de suite il repart. Je connais pas de Brucknerien fou, comme il y a des Wagneriens fous ou des fans absolus de Bach.
Qui sont totalement
dedans. Il y a un moment on est dedans et puis après on ressort parce qu'on comprend pas tout à fait. Et bizarrement, ça reste en tête. Et on a ces formules très répétitives après un concert, même si on n'a pas apprécié d'avoir écouté la troisième ou la deuxième. On ressort du concert et on a ces... Alors là, du coup, je comprends peut-être Céline Bidach. On a sa mélodie dans la tête. Et on devient aussi obsédé de cette mélodie répétitive que lui-même l'a été en composant.
Finalement, quand vous disiez il y a une sorte de comme ça de tension élastique, de proximité et d'éloignement, c'est quelque chose qui se joue autrement dans votre texte, Vincent Borel, parce qu'on arrive très très proche tout de suite dans son corps, avec son corps, et finalement, moi j'ai pas tellement senti que je m'en éloignais au fur et à mesure de la lecture du roman. C'est un roman qui s'approche au plus près de Bruckner, que vous appelez Anton, en tout cas que vous écrivez Anton. Ça veut dire que la musique c'est une chose, mais que le texte que vous avez écrit à partir ou avec Anton Bruckner, lui a réduit la distance avec cette figure-là.
Oui, il a réduit. Oui, il a réduit la distance. Moi, je m'approprie le... C'est pour ça que d'ailleurs les romans sur les musiciens s'appellent, mis à part La Vigne écarlate, mais des romans comme Richard W. ou Baptiste, c'est les prénoms. C'est-à-dire c'est l'homme qui m'intéresse, enfin c'est l'être qui m'intéresse, c'est pas le compositeur, c'est pas la théorie. Qui ont-ils été? Et Bruckner, qui a-t-il été cet homme, voilà, ce puceau de Dieu? Comment est-ce qu'on fonctionne quand on fait un choix de vie aussi radical que celui-là? Wagner, comment est-ce que l'homme a pu être en étant aussi passionné et ayant mis autant de passion névrotique dans sa musique? Donc c'est quoi la clé? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Voilà. Le corps de Bruckner est un corps souffrant, et moi j'ai découvert Bruckner en étant moi-même un corps souffrant. C'est-à-dire que c'est une histoire assez curieuse. Je suis allé au Belvédère un 11 octobre sans savoir que j'allais tomber sur la conciergerie où était mort Bruckner, et qu'en plus j'étais là par le plus grand des hasards, après avoir fait toute l'excursion, le pèlerinage esthétique au Belvédère, passant de Kokoschka à Klimt, Achille, Egon Schiele, que j'adore absolument. Je tombe sur la plaque commémorative, ici est mort Anton Bruckner, hein, 11 octobre. Je dis, waouh, c'est bizarre. Moi-même, j'étais perclus, j'avais énormément de crampes dans les jambes. Enfin, je me traînais, j'avais envie d'y être, mais je me traînais, j'étais un peu souffreteux. Et il y a eu comme si cet inconnu, parce que vraiment, pour moi, c'était un inconnu, me disait, coucou. On a des choses en commun là. En plus, c'est la date, donc tu devrais t'intéresser à moi, parce que je pense qu'on a des choses à se dire.
Il y a, vous parlez d'un corps souffrant, et c'est un corps qui, par exemple, il y a une image très très forte, un corps écartelé. Alors, je citais votre préface à Vie et mort d'un crabe et ce que vous dites de la force des métaphores. Là, c'est un corps écartelé au sens premier du terme et au sens second. D'où est venue cette image-là d'un corps qui veut tellement grandir qu'il se fait mal?
Je sais pas. Non, franchement, je voyais un gamin qui était petit, qui avait envie d'être organiste, qui avait envie. Alors l'orgue à l'époque, il fallait soit pédaler sur les soufflets, soit les tirer à bout de bras. Je voyais et bon, quand on veut en plus jouer de l'orgue et qu'on est un peu petit comme ça, il faut à la fois pouvoir atteindre le pédalier et pouvoir atteindre les claviers très haut. Donc ça demande. C'est pas comme un piano, ça demande vraiment, c'est un travail très physique, hein, le de jouer de l'orgue. Donc je voyais cet enfant qui effectivement dans sa biographie a voulu être comme son père, organiste, qui avait une véritable fascination pour son père, qui voulait être comme lui. Et je le voyais vouloir arriver tout de suite au niveau de son papa et de se donner un corps qui soit comme ça écartelé, qui soit dans la passion, presque la passion christique,
oui,
corporelle,
c'est vrai, c'est
comme
image.
Ça. Soit elle s'incarne dans les efforts qu'on s'inflige pour devenir plus grand, plus fort, plus apte à assouvir sa passion.
J'ai commencé directement en fait par le piano, mais par contre j'ai été fasciné par l'orgue tout de suite.
Ah.
Et la munificence sonore de l'orgue, la polyphonie, le jeu des pédales, enfin tout ça m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup écouté. Et puis à un certain moment, quand j'étais adolescent, j'écoutais des symphonies uniquement si elles avaient une partie d'orgue à l'intérieur. Alors je connais assez bien la fausse symphonie de Liszt, la huitième de Mahler, bon, la symphonie de Saint-Saëns,
oui.
Mais enfin bon, on va quand même... c'est pas vraiment mon répertoire.
Ni celui de Benjamin, je pense, voilà. D'ailleurs, vraiment.
Pas vraiment.
Et c'est vraiment autre chose. C'est le toucher est totalement différent, même l'approche musicale. Mais c'est intéressant, j'aime beaucoup regarder jouer même, parce que c'est vrai que le temps de l'attaque, le temps, là c'est un peu technique, mais pour vraiment attaquer la note et que le son soit émis entre deux notes, le legato, tout ça, c'est très différent du piano.
En 1840, un organiste ne peut pratiquer seul cet instrument pharaonique. Il lui faut au moins un assistant pour actionner les soufflets qui donnent voix à la bête. Sans une poigne rude et répétitive, elle reste muette. Anton ne comprend pas pourquoi on le brime. Lui qui a déjà joué avec son père. Son parrain Weiss l'a conforté dans ses capacités. Alors pourquoi cette rétrogradation? Il regarde ses mains et commence à douter. Est-il donc médiocre? Cependant, il obtempère. Deux passages latéraux donnent accès au ventre de la machine. L'arrière des pagodes rococo est un espace de poussière et de souricière, les rongeurs étant les pires ennemis des soufflets de cuir. À bras le corps, Anton apprend la machinerie lourde, récalcitrante, intouchée depuis sa conception 60 ans auparavant. Et elle a bien des défauts. La soufflerie manque de puissance. On peut difficilement travailler longtemps sans que la bête perde la voix. De l'autre côté de la gigantesque armoire, Kattinger interprète le contrepoint sévère de Staglieder et de Hammerschmidt, des maîtres aussi vieux que Mathusalem. Le jeune souffleur s'immerge dans ses constructions austères et mathématiques. Et il comprend peu à peu comment accorder sa cadence aux doigts de l'organiste, qui joue à 5 mètres de lui, séparé par les 7000 tuyaux savamment encastrés sur les multiples sommiers de la machine orgue. Anton calque l'amplitude et la vitesse de ses tractions, selon les nécessités de la fantaisie ou de la fugue. Il envoie plus ou moins de pression, à l'écoute des limites techniques de la machine. Il en apprend les subtilités de facture. Il colmate les fuites d'air. Il accorde les bouches des tuyaux que les variations de température mettent à mal. Il utilise la réglette, la clé et parfois un bon gros marteau pour venir à bout d'une soupape récalcitrante. Peu à peu, il fait corps avec l'orgue, l'épousant dans une intimité de poussière qui lui obscurcit les yeux et lui plâtre les narines. Il ressort de ses sèches entrailles, gris comme un fantôme.
Vincent Borel, c'est sur le souffle d'un accordéon que Romain de Bec-de-Lièvre vient de lire un extrait de votre roman La vigne écarlate. Et juste avant, on entendait le pianiste François-Frédéric Guy parler de sa fascination pour l'orgue, parce que ça aussi, c'est un motif extrêmement important de votre roman, la manière dont, justement, il y a à la fois une fascination qui regarde l'instrument de l'extérieur, et puis il y a le parcours de la vie de ce Anton Bruckner qui fait qu'il est dans la machine, quoi. Il est dans le navire, il est dans la salle des vapeurs. Cette description qu'on vient d'entendre là en fait vraiment une sorte de monstre. C'est comme ça que vous l'avez vécu à l'écriture, le rendu de cet orgue-là dans lequel rentre Anton.
Oui, parce que l'orgue, la machine orgue, en tout cas, est un monstre, est une machine fascinante. Moi, là, pour le coup, c'est du vécu qui rentre en ligne de compte dans le roman, parce que je connais l'orgue, je connais la facture, je sais comment ça fonctionne, je connais des organismes, notamment un organisme extrêmement brillant à qui le livre est dédié, et je vois dans quel espace on est quand cette machine-là se met en route. On n'est pas dans ce monde. On est souvent très inconfortable. C'est un instrument qui est difficile parce que c'est un instrument qui est athlétique. C'est un instrument pour sportif, aussi bien pour les jambes que pour les doigts. Guy en parle très très bien. On peut pas faire de legato alors qu'on peut pas. On peut pas faire du Chopin. Je veux dire, il faut avoir des doigts comme des marteaux. En plus, ça dépend parce que selon les instruments sur lesquels on joue, ce n'est jamais le même instrument. Donc, il faut toujours se réapprivoiser cette chose antique qui est d'un accès souvent compliqué, difficile. Il faut se réapproprier à chaque fois cette énorme mécanique qui est et on est très très seul quand on joue de l'orgue aussi. On est très seul parce qu'on entend trop ce qu'on fait et on n'entend pas ce que ça rend quand on est en bas dans la nef. C'est très difficile d'anticiper le son qu'on va produire, comment est-ce qu'on va le construire, parce que c'est un son qui se construit avec des jeux, avec des registrations, avec des accouplements de claviers. Est-ce qu'on entend là-haut, quand on est en train de travailler sa registration d'un prélude des fugues de Bach ou d'une pièce de César Franck? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend en bas. Donc on est perdu, c'est un instrument qui toujours échappe à son instrumentiste.
C'est difficile en vous entendant, Vincent Borel, de pas penser à l'écriture quand même. Quand je vous entends dire on est très très seul, on entend trop ce qu'on fait, on ne peut pas entendre ce qu'en bas on entendra, on n'est pas très très loin de la manière dont ça peut éventuellement se passer dans l'écriture. Est-ce que pour vous, c'est aussi l'intérêt de ce texte-là? Vous disiez tout à l'heure, Bruckner, c'est une énigme, une question adressée à la création. Est-ce que ça vous a aussi tendu un éventuel miroir sur le travail de l'écrivain?
J'ai pas pensé à ça en écrivant ce texte. C'est plutôt un chant d'amour à des choses des événements, des fulgurances que je peux avoir, des émotions que j'ai eues à l'orgue en jouant les tourneurs de page, en jouant ou en allant, en rentrant dans la machine derrière, en ouvrant les portes de ces grands placards, de voir tous ces tuyaux qui vous assourdissent quand l'instrumentiste balance vraiment la pression. Donc c'est Je suis un auteur qui ne réfléchit pas beaucoup à ce qu'il fait, en fait. Je suis assez intuitif. Je veux dire, je me regarde pas écrire. Je me suis pas en train de me poser des questions sur le laboratoire. C'est après que, à certains moments, je me dis tiens, oui, peut-être que ça s'est passé comme ça. Mais bon, finalement, c'est pas très important. L'essentiel, c'est ce que tu as fait. Voilà, j'ai pas de. Peut-être que oui, peut-être dans 2-3 ans, quand je le lirai, je pourrais me dire ah oui, tiens, c'est un miroir de l'écriture ou autre,
mais c'est pas l'objet, quoi.
C'est pas du tout l'objet. Je suis vraiment dans l'imaginaire quand j'écris. Je vois les choses, j'essaie de les transcrire le mieux possible, j'essaie d'attraper les images que j'ai ou le rythme que je sens en moi, que je sens monter en moi, mais il n'y a pas de présupposés ou de choses préétablies.
Quand vous parlez d'imaginaire, j'imagine que c'est aussi une sorte d'aller-retour avec la documentation, puisque ces instruments-là, ces grands orgues font se déplacer Anton Bruckner d'un lieu à un autre, il est appelé presque par l'instrument, c'est un tel instrumentiste, il est quand même admiré, bon, il cherche cette admiration et parfois il peine à la recevoir, mais de fait il en a quand même. Ça veut dire que c'est aussi un roman qui s'assoit sur beaucoup de lectures, qui s'assoit sur beaucoup de documentation.
Pas plus que ça. C'est, il n'est pas extrêmement documenté. Il est beaucoup documenté en langue allemande. Il est assez peu, faut le dire, il est assez peu documenté en France, parce que, ce que je disais au départ, c'est quelqu'un qui a une vie totalement anti-romanesque. Voilà, il n'y a pas de grande histoire d'amour. Il n'a pas eu de Cosima Wagner dans sa vie. Il n'y a pas eu de 36 femmes. Il n'y a pas eu d'engagement politique ni quoi que ce soit.
Vous écrivez même que la politique ne l'intéresse pas.
Non. Mais Celibidache, je le disais aussi, c'est quelqu'un qui lisait très très peu. Il avait peut-être 4-5 livres dans sa bibliothèque. C'est la musique, sa passion. Voilà, c'est la musique et c'est l'or. C'est vrai que Bruckner, de son temps, a d'abord été un des plus grands organistes autrichiens. C'est quelqu'un qui est appelé pour inaugurer l'orgue de la basilique Saint-Èvre à Nancy. Il va toucher le Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris quelques mois après son inauguration. Il va être appelé à Londres. À Londres, il va connaître un succès mais faramineux au Victoria Hall et puis au Crystal Palace. Voilà, il va donner des concerts où il rameute des dizaines de milliers de personnes quand même. Pour un organiste aujourd'hui, ça fait rêver, parce qu'un pauvre organiste aujourd'hui, quand il donne un concert, qu'il a 300 personnes pour l'entendre, il est content. À l'époque, Bruckner, il rameute quand même 3000, voire 10 000 personnes à Londres. Et d'ailleurs, c'est la clé de sa musique, en fait. Le fonctionnement de son orchestre et la façon dont il compose comme un organiste. C'est-à-dire qu'il construit le son. Et il construit les couleurs, il construit le son de son orchestre. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les orchestres de son temps, notamment le Philharmonique de Vienne, l'ont très très mal compris. Parce qu'il leur demandait des dispositions différentes. Il voulait les violons, qu'ils soient distribués différemment sur la scène, parce que il voulait que ça rappelle la façon dont on pouvait mettre ensemble, je sais pas, la montre, le nazar, etc. Il avait une autre ambition acoustique. Il était vraiment dans son monde acoustique et il était très peu suivi, il était très peu entendu, il était dans l'imaginaire de sa musique, et l'orgue a nourri totalement l'imaginaire de sa musique et la chair de sa musique.
Et c'est assez étonnant d'imaginer qu'un orgue lui sert presque de tombeau aujourd'hui et qu'il a fini par y rester mort, quoi, pour l'éternité dans cet instrument-là.
Oui, il a choisi, il a demandé à la fin que son corps soit... Dans son histoire, il fait vraiment corps avec une institution qui est l'abbaye de Saint-Florian en Autriche, où il entre quand il est tout gamin, il apprend la musique, il apprend l'orgue, il va devenir l'orgue de Saint-Florian. Il va avoir des rapports un petit peu conflictuels avec les autorités, mais il reviendra comme dans un havre de paix composé à Saint-Florian, etc. Et il est enterré, il demande à être enterré sous son instrument, et aujourd'hui son tombeau est sous l'instrument de Saint-Florian, qui est un de ces orgues baroques autrichiens à la façon bavaroise, quoi. On est entre la pagode rococo, tout est somptueux, en apparence, parce que Quand on monte là-haut, quand on regarde, quand on a le droit d'accéder à la tribune et qu'on regarde un peu ce qui se passe, c'est que du toc, en fait. C'est du plâtre, c'est des stucs, c'est peint devant, c'est pas peint derrière, ça tient des fois avec trois bouts de bois. C'est ça qui est fascinant avec cet instrument, c'est qu'il est à la fois extrêmement impressionnant, on a l'impression qu'il est éternel, qu'il va pas bouger, et il n'arrête pas de bouger. C'est une chose capricieuse qui obéit aux variations de température, à l'hygrométrie, il faut sans arrêt accorder les tuyaux. Quand ça va pas, il faut donner des coups de pied pour que ça fonctionne correctement.
Ça vous plaît?
Ah oui, j'aime bien. Il y a un côté artisan du son. Il y a un côté Tinguely des fois dans l'orgue. Quoi, c'est la machine. C'est pas comme un beau saxophone ou un beau Bosendorfer où ça, il faut les accorder certes, surtout les pianos. Mais ça bouge pas. L'orgue, ça bouge sans arrêt. Ça vit, quoi. Moi, je me souviens par exemple d'un instrument qui est à la cathédrale de Carcassonne. C'est un instrument très très ancien du XVIIe siècle. C'est un instrument. Quand on va répéter, s'il fait beau, et puis si tout d'un coup dans la nuit la pression a baissé et qu'un vent venu de la Méditerranée fait arriver un orage et humidifie l'air, il faut tout reprendre parce que l'orgue s'est désaccordé, que les tuyaux ne sonneront plus de la même façon. Donc heure après heure, cette chose-là, c'est même pas une machine, c'est une bête. Cette bête vit à ses caprices et il faut la dompter. Il y a un côté très Siegfried et le dragon avec une image qui aurait plu à Bruckner. Qui a évidemment adoré Wagner, mais voilà, il faut dompter la chose. France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Vous l'aviez annoncé tout à l'heure, Vincent Borel, on entend un petit bout de cette 7e symphonie, ici par l'orchestre Stadtkapelle de Dresde, dirigé par Daniel Barenboim. Pourquoi est-ce que celle-ci a été plus facilement reçue? Pourquoi est-ce que cette symphonie-là n'a peut-être pas connu la difficulté d'approche et d'écoute que vous décriviez pour le reste?
Sans doute parce qu'elle est plus lyrique que les autres. Elle parle plus, surtout ce mouvement central, parle beaucoup plus à l'affect. Alors que les symphonies précédentes sont plus cérébrales, sont plus des symphonies de musiciens, voilà, qui s'adressent quand même à quelqu'un qui connaît le contrepoint, le fonctionnement, etc. Et là, c'est parce que c'est une œuvre aussi qu'il écrit dans une douleur profonde. Wagner décède à Venise en 1883, il est en pleine rédaction de cette symphonie qu'il a commencé en voulant la dédier à nouveau à Wagner. Il avait déjà dédié la troisième à Wagner, qu'il lui avait présenté, et Wagner, qui avait beaucoup été cité dans la troisième symphonie, lui avait dit, mais mon très cher Anton, j'accepte avec grand plaisir cette dédicace. Évidemment, Bruckner est en train, sans s'en rendre compte, est en train de lui construire de lui passer la brosse, comme on dirait aujourd'hui. Mais la septième, il recommence son exercice d'admiration pour Wagner, mais il y met vraiment toutes ses tripes. Et c'est la symphonie, elle est créée aussi après la mort de Wagner. On est déjà dans le culte wagnérien qui s'est vraiment institué en Autriche, en Allemagne. Bruckner s'est un peu institué aussi comme étant son plus grand chantre. Et elle tombe au bon moment. Mais elle tombe au bon moment aussi parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, en réécoutant ce passage-là, j'étais en train de me dire, mais c'est quand même incroyable de penser que cet homme n'a jamais... Enfin si, cet homme a tout le temps été amoureux dans sa vie. Il n'a jamais été allé jusqu'au bout de son désir, mais c'est peut-être cette rétention-là qui fait qu'il y a autant de passion et que la passion est aussi vraie qu'elle nous parle autant. On en revient à Celibidache qui parlait de Bruckner qui nous parle. Alors là effectivement, c'est l'expression même de la passion.
Parce qu'elle serait comme pure d'une certaine manière dans l'espèce d'organisation du monde selon Bruckner. Ce serait une passion pure qui nous atteindrait dans cette pureté.
Oui. C'est presque un coup de foudre, c'est ça. C'est-à-dire que cette immédiateté du geste, c'est la bonne passion, c'est le bon sentiment, il a trouvé les bonnes notes pour nous atteindre. Et ça, c'est pas pour rien que ça continue à être ça a été dès le départ sa symphonie la plus populaire. Et ça n'a jamais, la passion pour cette symphonie n'a jamais baissé. D'ailleurs, c'est toujours celle qu'on, Tenez, par exemple, au Théâtre des Champs-Élysées, dans cette saison, on donne du Bruckner, on donne deux fois la septième, on donne pas d'autres symphonies, on donne la septième. Parce qu'on sait que la septième, elle a un effet en concert avec un grand orchestre. Isa Pekka Salonen l'a donné récemment. On dit un orchestre mené vraiment de main de maître qui joue ça, le public, il s'en remet pas.
Et pourtant, est-ce que vous diriez que c'est un succès ou une popularité ou la passion accordée à cette septième symphonie qui le remplit, qui le comble, cet Anton Bruckner?
Ça le comble pas vraiment, bizarrement. D'abord parce qu'il est entouré d'un groupe d'admirateurs qu'il appelle les Gaudeamus, dans lequel il y a des grands chefs, ceux qui vont devenir les grands chefs d'orchestre du début du XXe siècle, notamment Arthur Nikisch, etc. Et Arthur Nikisch lui dit, mais justement dans ce mouvement-là, moi je vais mettre une cymbale parce que je trouve que ça serait mieux. Et Bruckner lui dit, mais ça va pas la tête, moi je veux pas, tu vas pas mettre de cymbales, tu vas pas la jouer comme ça. Et Bruckner, il va rester scotché sur cette histoire de cymbales, c'est-à-dire que tout le bénéfice du bonheur qu'il peut trouver dans le succès de cette symphonie, il va être sans arrêt en train de se dire, est-ce qu'ils l'ont dirigé avec un coup de cymbale ou pas? Parce que s'il y a un coup de cymbale et que moi je l'ai pas écrit, c'est pas ma symphonie. Donc il va être dans le... Il va pas être satisfait. Et il est jamais satisfait. Il a quelques critiques, notamment sur sa huitième symphonie, et de la part d'un autre grand chef d'orchestre, qui est Hermann Levy, qui a été le créateur de Parsifal à Bayreuth. Et cette critique va le traumatiser pendant quasiment 10 ans. C'est-à-dire qu'il est entre la huitième et la neuvième, il va se passer 10 années où il va réécrire toutes ses symphonies précédentes, parce qu'il, voilà. À nouveau une crise de confiance totale, à nouveau le sol se dérobe sous ses pieds.
C'est un grand mélancolique, on a assez peu parlé de ça jusqu'à maintenant, mais vous décrivez aussi un être qui est aux prises avec la mélancolie, avec la dépression, avec la difficulté d'être au monde.
Oui, c'est un être qui n'est pas bien sur cette terre. Il est pourtant les rares photos qu'on a de lui quand c'est un homme qui a une trentaine d'années, il est assez bel homme, c'est un grand brun baraqué, avec une petite moustache, enfin je veux dire qui présente bien, parce que Bruckner, les quelques images qu'on a de lui, on voit toujours ce vieillard à la fin qui est édenté, qui est chauve, qui ressemble à une momie, quoi, qui est vraiment l'antithèse de l'attirant. Alors dans les années 1860, c'est quelqu'un de tout à fait présentable, mais on voit dans son regard, on sent dans son regard une infinie tristesse. Il est pas bien au monde, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs on dirait que c'est sans aucun doute un Habsberger, quoi. C'est quelqu'un qui est sans arrêt menacé par la folie. Il y a de la folie dans sa famille. Son frère cadet a eu des soucis d'asile, voilà. Il n'a pas été. Et Bruckner lui-même va être. Il a une dépression nerveuse extrêmement sévère à Linz parce qu'il a énormément travaillé, il a vraiment travaillé jusqu'à la folie. Il était tellement peu sûr de lui. Et en même temps, il avait une telle ambition qu'entre ce désir de bien faire et cette angoisse de se dire j'arriverai jamais parce que je suis nul, il a souvent son mental, son ego sombre dans ce gouffre, et il sombre vraiment. Il faut qu'il aille en cure, et d'ailleurs les ceux qui ne sont pas encore les psychiatres à l'époque le lui disent surtout pas de musique, ne composez pas parce que c'est la musique qui vous rend fou.
La cure alterne les lavements et les stations de repos, le corps ceint de serviettes imbibées d'eau froide. Semaine après semaine, ce rituel sanitaire a pour conséquence de dénerver Anton et de le faire maigrir. Son pouls s'apaise, ses vénules varicœuses s'estompent, ses pieds et ses chevilles dégonflent. Son esprit, coupé de toute activité musicale, se laisse prendre par un ennui languissant que seules les longues balades au cœur des forêts alentours interrompent. Il ne peut s'empêcher d'emmagasiner en lui les chants d'animaux, le bruissement des feuilles. Il est à l'écoute du souffle ininterrompu de la création. Ce bucoliaste l'a transcrit en de mignonnets scherzo que lui seul perçoit. Dans un lac voisin, il passe ses heures à nager et se sécher au soleil d'été, ralentissant ses mouvements, sentant se désquamer son inquiétude. Il se noie progressivement dans le faux silence de la campagne. Au retour, il s'arrête devant un fruste reposoir, s'agenouille et prie. Benedictus est. Il repeuple de rituels ses temps de farniente où sa santé mentale la contraint à stationner. C'est alors que la musique lui tend un piège inattendu. Il n'a pas touché un clavier depuis 3 mois. Dans l'établissement, consigne a été donnée de ne jamais jouer en sa présence et de tenir le piano fermé à clé. Mais par un après-midi menaçant, où des cumulus blêmes jouent avec les collines à qui sera le plus noir, de leur ventre ou des sapinières, une troupe de gitans trouve refuge dans la cour de l'établissement. Ravis de l'aubaine, l'équipe soignante leur ouvre la salle des fêtes. Les errants sortent aussitôt leurs instruments. Il y a dans la troupe une ténébreuse créature, créole aux oreilles, jupe à ramages noirs et pourpres, longs cheveux huilés. Elle s'élance pour une danse exotique soulignée de guitares et de claquements de mains. Voilà des semaines qu'Anton n'a plus entendu de musique humaine. Jamais, même chez les Romanichel de la morne Windhag, il n'a ouï de telles pulsations. Il reste interloqué, debout, livide, ses yeux fixant la Moriko dont la jeunesse le dérange terriblement. Vincent Borel, c'est un extrait de La Vigne écarlate. Et dans cette scène, vous parliez tout à l'heure des cures dont a besoin Anton Bruckner pour se sortir de cette dépression, de cette difficulté d'être au monde, et du piège qui est ici tendu par la musique, mais par la musique et par le corps de la femme. Et vraiment, dans cette scène, on voit que son empêchement, son interdiction de jouer de la musique, il est très, très parallèle, similaire, il est très jumeau de son empêchement par rapport au corps féminin. Ça, c'était vraiment un enjeu très fort du roman, non ?
Oui, c'est un enjeu central du roman. Je pense que c'est la clé de la personnalité de Bruckner. Bruckner, il est cadenassé. Il ne rêve que d'une chose, c'est que quelqu'un vienne avec une clé ouvrir ce cadenas. Mais cette clé ne viendra pas, ou alors il ne sait pas. Elle passe et il ne la trouve pas.
Parce que d'aucune se sont approchés quand même.
Il s'est approché de beaucoup. C'est toute la différence. Je pense que c'est quand on regarde ces traces biographiques, c'est assez étrange. Bon, il y a cette anecdote qui est effectivement assez connue de cette folie qui s'empare de lui à cause de cette musique gitane qui le perturbe énormément. Et puis c'est quelqu'un qui a toujours été amoureux du même type de femme. Alors ce ne sont même pas des femmes, ce sont des jeunes filles. Aujourd'hui, ça serait très embêtant pour quelqu'un comme Bruckner. Je pense que c'est quelqu'un qui a été amoureux à 15 ans d'une fille de 15 ans, ça s'est très mal passé. Il n'a pas compris, il a été refusé, ou il s'est refusé plutôt. Et il reste fondamentalement...
C'était trop, quoi, l'éruption du sexuel, vous l'écrivez d'ailleurs. C'est trop pour lui,
C'est trop pour lui, il se referme. Il va regretter, évidemment, après, de s'être refermé. Mais il y a une fêlure qui s'est installée en lui. Il va sans arrêt... répéter cette même scène. Il a envie de résoudre cette chose qu'il n'a pas su résoudre à ce moment-là. Et il va passer sa vie à répéter sans arrêt la même scène. Donc c'est un, si vous voulez, on voit que dans sa psyché, dans sa tête, il reste le gamin de 15 ans. Mais il va répéter cette scène, il va demander en mariage à 15 ans, à 20 ans, à 25, à 30, 35, jusqu'à la fin de sa vie, il va toujours demander en mariage, hein, il n'y a pas de tentative de viol, ni de voilà, c'est pas un MeToo, hein, il n'a pas ce genre de problème, Bruckner, mais il demande toujours en mariage des jeunes filles de 15 ans. Et ça devient évidemment ahurissant à 60 ans, à nouveau, que ce compositeur, mais il s'en tige de jeune fille, il va écrire aux parents qui sont bouchers, qui sont instituteurs, etc. Il dit, je veux épouser votre fille. Ben, dit, attendez, il y a une différence d'âge, elle est énorme. Ah bon? Ah oui, il y a une différence d'âge entre nous. Voilà. Mais il est sans, il est, voilà, il est, il, Arrêt sur image de son histoire amoureuse.
Et quand je dis ça, un enjeu central et que vous répondez parce que c'est une clé, vous diriez quoi? C'est une clé de sa vie ou une clé de sa musique ou les deux sont indistincts, Vincent?
Les deux sont profondément liés. Je pense que sa musique est le déversoir de tout ce qu'il n'a pas, sans pouvoir l'intellectualiser, parce que ça n'est pas du tout un intellectuel. Alors c'est assez amusant de savoir qu'à Vienne, il était voisin avec Sigmund Freud, le jeune Sigmund Freud.
Bah quand on vous entend comme ça parler de répétition, de comme ça d'arrêt sur image à 15 ans au moment de l'éruption du sexuel, évidemment que la question de la psychanalyse n'est pas très très loin.
C'est quelqu'un qui aurait dû rencontrer.
Il aurait dû traverser la rue.
Ça aurait pu se faire, mais en même temps, si ça s'était fait, il aurait peut-être pas composé ce qu'il a composé.
Ça, c'est l'hypothèse du texte. Vous diriez, Vincent Borel, de votre texte à vous.
Oui, absolument. Je pense qu'en écoutant avec grande attention sa musique, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'onanisme. On essaie de trouver, de faire monter un plaisir. Et c'est pas, ça se retrouve du début jusqu'à la fin. C'est incroyable. Il est dans un système de répétition, d'inversement des formules. Il recommence, il remet ça. On se dit, mais c'est fou quand on est, à certains moments, on est dans une anticipation de Philip Glass ou de Steve Reich. Et c'est ça qui va faire sa modernité, curieusement. Il y a des anecdotes concernant son corps qui sont extrêmement étranges. Il avait extrêmement peur, par exemple, des érections matinales. Et il portait très très serré des caleçons pour s'empêcher de ressentir ce plaisir-là. Il y a quelques biographes qui notent ce détail qui est quand même très très révélateur. Et par ailleurs, c'était quelqu'un qui était obsédé, par exemple. Alors ça, c'est on va dire Sigmund Freud qui doit parler, mais il était obsédé par les clochers. Voilà. Était obsédé par la forme des clochers. Donc il y a quelque chose par rapport au phallus là qui est compliqué dans sa tête et qui n'a été résolu par personne, parce que la cure dont on parle là, enfin donc que j'ai mise en scène, c'est l'hydrothérapie telle qu'on la faisait à l'époque. Donc est-ce que en vous plongeant dans l'eau glacée le matin, ça
va? En buvant parfois.
Voilà, est-ce que ça va être une thérapie? On n'est pas dans une thérapie de la parole, dans une thérapie du corps souffrant qu'on essaie de traiter par des manières un petit peu étranges ou un petit peu anciennes. Lui, c'est la parole, il n'a rien dénoué en fait.
Mais il a composé.
Mais il a composé. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est quelqu'un qui commence à composer dans ses premiers essais. Il compose comme du Schubert. Et à la fin, dans cette 9e symphonie qu'il n'entendra jamais, comme beaucoup de ses symphonies, et qu'il n'arrivera jamais à terminer, parce qu'il meurt avant. Et dans le mouvement lent de cette 9e symphonie, on entend vraiment. Vous parliez tout à l'heure de corps torturés et de corps déchirés. On entend la façon dont il a torturé et déchiré la musique. C'est-à-dire qu'il s'est permis, c'est quand même aussi un professeur. C'est un bon professeur d'université qui, de conservatoire et qui donne aussi des cours libres à l'université de Vienne et qui donne des cours sur l'histoire de la musique, etc. Donc il est dans le patrimoine, il est dans l'ordre, mais il se permet une chose inouïe dans la 9e symphonie. Il y a un intervalle de 9e qui est, on entend du Schoenberg déjà. Et personne n'a jamais écrit ça à l'époque. Lui-même, voilà, il a besoin d'écrire ce ça me fait penser à Egon Schiele. C'est un corps torturé, c'est un corps ouvert. Et on comprend tout à fait qu'il ait aussi ressenti de manière aussi viscérale le fameux accord de 7e, l'accord de douleur de Tristan, qui pour les contemporains en 1865, l'accord de Tristan, ça a été une révolution, parce que cet homme-là mettait en son une névrose, quelque chose de très étrange, voilà, qui parlait au corps et qui allait générer énormément d'écrits et qui allait bouleverser la musique. Ça a bouleversé la musique, ça a bouleversé Bruckner. Et Bruckner, lui qui est un puceau, il va torturer la musique jusqu'à ce point-là, et tout en étant, en n'ayant jamais pu entendre ce qu'il avait composé, il ouvre la porte à, même pas à Mahler, il ouvre la porte à Schoenberg et à la 2e école de Vienne sans le savoir.
Et en même temps, il s'adresse à Dieu, c'est-à-dire que il y a aussi toujours cette métaphore du poumon de Dieu, du souffle, et on sait même plus à la fin qui respire quoi dans l'orgue chez Bruckner. Est-ce que c'est pas le créateur dans lequel il remettait tout son être qui respire, oui, à travers lui? C'est-à-dire que à la fois il y a une petite ou une immense sublimation qui est celle de l'adresse au divin dans son travail que vous écrivez, Vincent Borel.
Oui, son cheminement officiel ou son cheminement conscient en tant que créateur, c'est rendre hommage au créateur avec un C majuscule.
Donc, l'inconscient, c'est peut-être de buter contre son refus de la sexualité, du corps féminin ou du corps de l'autre, quoi.
Oui, c'est un chiasme, quoi. C'est un X, cet homme, sans le savoir. Effectivement, s'il avait fait une psychanalyse, il nous aurait fait une musique peut-être sans aucun intérêt. Enfin, en même temps, la psychanalyse était juste en train d'être anticipée, hein, parce qu'il meurt quand même dans les années 1890. C'est la marche au-dessous de ce qui est en train de se passer à Vienne à ce moment-là. Mais c'est cette faille et cette contradiction qui construit sa musique et qui a construit en même temps déconstruit l'homme, parce que Bruckner est un corps en souffrance quand même, c'est un corps qui se cadenasse lui-même, il compense en mangeant énormément, c'est un goinfre, quand on retrouve des traces des menus qu'il pouvait s'envoyer, enfin c'était quand même, c'est l'homme, il mangeait quand même des côtelettes, énormément, du chou, des pommes de terre, 2-3 desserts, il pouvait recommencer derrière, il buvait énormément de bière, il fumait beaucoup, il prisait aussi beaucoup de tabac, donc c'est un homme qui compense énormément, et ça va le tuer petit à petit, je veux dire, il a des problèmes cardiaques, il a des problèmes rénaux, jusqu'à ne plus pouvoir jouer d'orgue, parce que c'est jouer de l'orgue, surtout du pédalier, parce que ses jambes ne répondent plus. Donc c'est un... Il lutte contre lui-même sans en avoir vraiment conscience, sérieusement.
Et c'est là que quand même je suis obligée de revenir, même si vous disiez que le miroir ne vous intéresse pas, à ce que vous écrivez dans cette préface à la reparution en poche de Vie et mort d'un crabe. Ce combat de soi-même avec un soi-même devenu et mi-mortel s'est effectué sur un théâtre intérieur. On n'aura pas eu le temps de faire ce lien avec ce texte qui reparaît 20 ans après dans la collection de poche chez Sabine Vespizer, mais je trouve qu'avoir l'occasion de lire La Vigne écarlate en même temps, en parallèle, de lire Vie et mort d'un crabe, Vincent Borel est une double lecture extrêmement enrichissante. C'est pas grave si on n'a pas eu le temps d'en discuter?
Non.
C'est mieux comme ça?
C'est mieux comme ça. Enfin, cela dit, c'est vrai qu'il y a un tout petit rapport, c'est que ce qui se passe avec Vie et mort d'un crabe arrive sur une musique de Wagner et sur Parsifal. Donc finalement, c'est là qu'on se dit qu'on, sans s'en rendre compte, on fait œuvre. Il y a quelque chose d'un cheminement dans son existence d'écriture, sans qu'on l'ait calculé.
Je crois que c'est vraiment une phrase qui sera, sans s'en rendre compte, ils font, vous faites œuvre. La Vigne écarlate s'apparaît donc en ce mois d'octobre chez Sabine Vespizer, éditeur, et Vie et mort d'un crabe dans la collection Poche. Merci beaucoup, Vincent Borel.
Merci à vous.
Au son ce soir, c'était Julien Douminc à la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture. Quand vous voulez, sur franceculture.fr, vous retrouvez les références des archives, les références des musiques qu'on diffuse, aussi un endroit pour nous écrire et un autre pour vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Jeanne Léos, Romain de Bec de Lièvre, Lou Quevauvier, Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée sur France Culture.